Merci d'être là, tous ceux qui viennent d'arriver et qui se joignent à l'émission. On en profite pour saluer tous les gens un peu partout au Québec. Vous savez qu'aujourd'hui, nous suivons pour vous dans le cadre de cette émission également, pas que dans nos bulletins de nouvelles. Vous l'avez entendu, là, c'est le jour de la sentence d'Alexandre Bissonnette. Donc évidemment, le juge François Huot est en train de poursuivre sa lecture de la jurisprudence qui va éventuellement mener donc au jugement, à la condamnation. Ça oscille entre 25 jusqu'à 150 ans. On suit ça pour vous. Donc, dès qu'il va se passer quelque chose, soyez rassurés, on vous tiendra au courant immédiatement de la peine et nous avons de toute façon dans quelques minutes une discussion là-dessus. Je veux aussi vous dire, je voudrais revenir en fait maintenant sur un autre sujet qui m'a beaucoup touchée parce que vous le savez, je vous parle souvent de regroupement partage. Je suis marraine depuis plus d'une dizaine d'années avec ma copine Martine Sinclair, entre autres. Puis, on essaie d'aider un peu, entre autres, Sylvie Rochette, qui est cofondatrice et directrice générale du regroupement partage parce que il y a énormément de besoins dans la région de Montréal. À Montréal, il y a énormément de familles qui sont composées au tiers, plus du tiers maintenant, on le sait, c'est des enfants qui ont recours à l'aide alimentaire. Et encore cette semaine, on nous apprenait que les banques alimentaires ont besoin d'aide. Elles sont à sec, il n'y a plus rien. C'est compliqué d'avoir de la bouffe, de donner des services. Vous vous souvenez même, au mois de janvier, après Noël, après les fêtes, c'est Jeunesse au soleil qui nous rappelait que merci pour vos dons du temps des fêtes, mais il ne faut pas juste penser que c'est un problème de Noël ou du jour de l'an. Après, la vie continue. Puis malheureusement, le problème perdure. Sylvie est avec nous. Merci Sylvie d'être là.
Bonjour Isabelle.
On s'est vu cette semaine parce que tu as fait toute une soirée pour remercier les bénévoles. Des milliers de gens qui donnent leur temps pour aider les autres. Je trouve qu'il faut saluer ça. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Mais ce qui me touche encore plus, puis on en parle souvent, toi et moi, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas à répondre à la demande? On dirait que la demande augmente plus vite que ce qu'on est capable de, ce à quoi on est capable de répondre.
Bien, il y a plusieurs choses à ça. Premièrement, la pauvreté, c'est jamais glamour. Hein? On veut pas en entendre parler. Puis c'est facile de tasser la pauvreté hein, parce qu'on a juste à détourner les yeux, le regard ou de se fermer les oreilles puis on n'entend pas parler. Tandis que quand on parle de maladie, on parle de conséquences climatiques, des choses comme ça, bien, quand même, quand on se fermerait les yeux, on le voit tous les jours, on est plus touché. Et la pauvreté, quand c'est pas près de nous, on se sent pas interpellé par ça. Et pourtant, la pauvreté, c'est partout, puis ça a des conséquences dans les vies de tout le monde. Parce que la pauvreté a un impact économique et humain extrêmement important pour une société. Ouais. Et on n'y arrive pas parce que c'est pas la volonté de notre société québécoise actuellement de faire la vraie lutte à la pauvreté. Puis la vraie lutte à la pauvreté, là, c'est tous ensemble. C'est pas juste l'affaire des gouvernements. C'est pas juste l'affaire des entreprises, des organismes communautaires. C'est l'affaire de tout le monde. C'est une volonté qu'on doit avoir ensemble pour l'éliminer. Et tant ou si longtemps qu'on comprendra pas ça, on va être prise avec les mêmes problématiques qu'on dénombre et qu'on dit année après année. Puis là, au cours des dernières années, il y a 34 % de plus de demandes dans les banques alimentaires. Les banques alimentaires n'y arrivent pas. Et la faim, c'est le premier besoin fondamental que tout être humain a besoin. Je le disais cette semaine, tu l'as entendu, qu'est-ce que les itinérants vont faire en premier lieu avant de se trouver un toit? Ils vont tendre la main auprès des automobilistes ou auprès des passants pour avoir de l'argent pour aller manger. Ouais. Parce que quand on a le ventre vide, on a l'esprit vide. On a tous nos sens qui sont déréglés et on peut pas aller vers autre chose pour s'en sortir. Donc, la faim, c'est la base de tout. Il faut être capable de s'assurer que nos Québécois, quelle que soit l'origine, la source de la problématique, c'est d'être capable de leur donner accès à des aliments sains.
Tu me disais aussi, cette semaine, ça vient de sortir là, dans vos chiffres, 70 % des demandes, des nouvelles demandes chez vous d'aide alimentaire d'urgence, ce sont des gens que vous aviez jamais vus avant. Là.
Oui,
donc, c'est comme des nouveaux pauvres.
Oui, ben en fait, il y a plus de profil type hein, de pauvres. Avant, on disait ah, ce sont des gens majoritairement sur l'aide sociale et tout ça, de génération en génération. Mais maintenant, là, il y a plus de profil. Les pauvres, ce sont des salariés. On a des salariés pauvres au Québec. Et c'est énorme. C'est 40 % de notre masse salariale au Québec, ce sont des gens qui sont au salaire minimum. Et de ces gens-là, 58 % sont des femmes. Et des femmes monoparentales, c'est la moitié de ces femmes-là qui sont monoparentales. On a un gros problème au niveau de la pauvreté. Puis on n'arrive pas à répondre à ce besoin-là dans les banques alimentaires parce qu'on n'a pas assez. On n'est pas capable d'aller récolter assez pour pouvoir redonner à la population. Puis redonner n'est pas nécessairement juste la solution, mais il faut redonner à la population pour amener celle-ci vers d'autres mesures.
Mais c'est pas la job du gouvernement, à un moment donné, de s'occuper de ça aussi, là?
Ben oui, mais en même temps, c'est la volonté des gens qui élisent le gouvernement aussi. Si le gouvernement ne le met pas dans son plan d'action ou ne le met pas dans ses promesses électorales, puis que les gens
mais
le demandent pas.
Mais ils mettent toujours un peu. Là,
mais ils n'en ont pas mis beaucoup. Je vous dirais que dans la dernière campagne, on n'en a pas entendu parler. On a même eu des bévues là, au milieu, au niveau des listes d'épicerie. Donc, on ne reviendra pas sur ce sujet-là. Non. On en a longtemps parlé. Mais non, il y a une volonté de tout le monde. Et oui, c'est la prise en charge du gouvernement, mais il y a aussi la prise en charge de toutes les institutions, même du privé, même du philanthropique et tout ça. On travaille en silo au lieu de travailler tous ensemble, avoir une table de concertation provinciale pour pouvoir être capable de s'attaquer à la pauvreté dans sa globalité, que ce soit au niveau du logement, de l'alimentation, au niveau de l'éducation, au niveau de la criminalisation. Ça coûte extrêmement cher, hein, la pauvreté à Montréal. Puis pas juste à Montréal, au niveau de la province. Ouais. Problèmes de santé mentale, santé physique, logement, criminalisation, violence, décrochage.
On disait donc 70 % des nouvelles demandes au regroupement partage, puis ça doit être pas mal comme ça dans la plupart des organismes au Québec. Ce sont des nouveaux pauvres. Et j'ai un cas pour vous qui nous écoutez, parce que je vous posais la question, est-ce que vous avez déjà eu besoin d'une aide alimentaire d'urgence? Et il y a Marie-France Cyr qui nous a appelé, qui nous a écrit en fait, et je tenais à lui parler parce que son histoire, tu vas voir Sylvie, c'est assez incroyable. Marie-France donc répond à ma demande, elle dit qu'elle a un doctorat, elle est tutrice à l'université TELUC depuis une trentaine d'années et elle reçoit de l'aide alimentaire maintenant depuis 6 mois, elle est au bout du fil. Bonjour Marie-France.
Bonjour Isabelle.
Vous avez été interpellée par ma question parce que vous le vivez, là. Vous auriez jamais pensé être obligée de quitter de l'épicerie, là.
Ben non, mais c'est sûr, quand ça fait 29 ans qu'on enseigne puis qu'on a un bon salaire, qu'on s'est toujours très bien débrouillé, c'est certain que j'avais pas envisagé ça, que au bout de presque 30 ans, mon employeur me laisserait tomber, moi, puis on est comme à peu près 200 tuteurs, vraiment très mal pris. La TELUC nous a plongé dans la pauvreté.
Comment ça fait qu'on sait pas ça?
Les médias couvrent pas beaucoup notre grève qui dure depuis le 28 janvier. Ça fait 17 mois qu'on est en négociation avec l'employeur. On a été remplacés par des professeurs à contrat plus jeunes qui coûtent moins cher parce que, faut quand même le dire, la moyenne d'âge des tuteurs à la TELUC, c'est 52 ans. Donc, on a atteint pas mal le haut des échelons salariaux et on coûte trop cher. Donc, pour essayer de combler le déficit, parce que la TELUC est en déficit, ils ont trouvé des sous-traitants. Il y avait l'Institut Matsi. Là, maintenant, ça a été aboli parce que la ministre de l'Enseignement supérieur a même suspendu notre ancien DG, Martin Noël. Il y a maintenant André Gérois, le nouveau DG intérimaire, qui est là pour poursuivre les négociations. On avait beaucoup d'espoir. Mais finalement, on continue de perdre nos emplois de manière progressive.
Et donc, vous avez perdu 80 % de votre salaire et vous n'avez pas le droit au chômage parce que vous travaillez encore, c'est ça?
Ben, tu sais, pour le chômage, il faut que ce soit 7 jours consécutifs sans revenu. Et donc, avec le chômage, bon, il faut comme avoir perdu notre emploi. Mais c'est pire que le congédiement, ce qu'ils nous font. Nous, on est payé par étudiant. Et on a différents cours. Moi, j'ai été remplacée par des professeurs à contrat dans tous mes cours en communication, dans mon cours en français qui était ma vache à lait. Tout ce qui me reste, c'est littérature pour enfants, 9 000 par année.
OK. C'est ça que vous... Donc, vous n'avez pas le droit vraiment au chômage parce qu'il vous reste... Vous avez un petit revenu d'appoint, mais là, vous aviez votre condo, vous êtes obligé de le vendre.
Oui, je suis obligée de vendre mon condo.
Je suis nouvellement plongée dans la pauvreté. Ça, c'est tout à fait un exemple de ce qu'on dit là avec Sylvie Rochette en ce moment. C'est que de plus en plus de gens vont vivre ce que vous vivez. Puis, j'imagine, Marie-France, on dit souvent, les gens, ils n'ont même pas 200-300 piastres devant eux. Là, il n'y a quand même pas de coussin d'urgence. Vous n'aviez pas ça?
J'avais un excellent coussin d'urgence.
Mais le coussin,
mes CELI. J'avais des milliers de dollars dans mes CELI. Étant donné que ma paye a baissé pendant un an et demi, je ne pouvais jamais savoir c'est quoi ma prochaine paye. La dernière paye, c'était 183 $ net dans une semaine. Puis là, maintenant, j'ai plus de paye parce qu'on est en grève.
Ouais.
Puis et donc, les prestations de grévistes, j'aurai probablement droit à 268 par semaine.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, oui, Sylvie, ça veut dire que des gens comme Marie-France qui vivent ça et qu'on n'a pas de programme, justement, on n'a pas de filet social assez solide pour pouvoir éviter ça. Ça veut dire que cette personne-là, on ne l'a pas aidée dès le départ. Elle est allée chercher ses fonds, elle est allée chercher ses fonds de pension. Elle va être obligée de vendre son condo. On va attendre quoi pour aider cette personne-là convenablement pour pas qu'elle s'enfonce davantage dans la pauvreté?
Ouais.
Et qu'après ça, elle va vivre une détresse humaine, puis elle vit une détresse économique. Et ça coûte plus cher au bout du compte dans tous les aspects de notre société. Je comprends pas que nos gens, nos décideurs, que les gens des différentes plateformes de décision ne comprennent pas que combattre la lutte, faire de la lutte à la pauvreté, c'est gagnant pour tout le monde.
Mmh. Vous avez d'ailleurs essayé de vous trouver d'autres travails, Marie-France.
Oui.
Vous avez même envoyé votre CV pour être secrétaire réceptionniste, puis ça donne rien, c'est ça?
Non, ça donne rien parce que, évidemment, bon, il y a le côté doctorat, mais même si je cache que j'ai un doctorat, c'est difficile de cacher qu'on est dans la cinquantaine. J'ai pas encore 55 ans, donc je peux pas prendre la pré-retraite. Et j'essaie d'enseigner au cégep, mais là, il en engage deux jeunes pour le prix de moi.
Mmh.
Donc, je suis même pas convoquée en entrevue. Je peux pas enseigner au primaire et au secondaire parce que j'ai pas de brevet d'enseignement. Tu sais, c'est deux voies différentes,
ouais,
l'éducation puis l'enseignement supérieur.
Ouais.
On va manifester à midi devant l'Université Téluc à Montréal.
Aujourd'hui?
Mes collègues.
Ouais.
Pas moi parce que je suis plus loin. Moi, ça va être à Saint-Jérôme devant l'UQO mardi midi. Ce serait vraiment bien que les gens soient solidaires de notre cause parce que c'est vraiment difficile. J'ai une collègue tutrice, elle est dans la dépression trop profonde pour être capable de manifester. Il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Les impacts sur notre santé physique et mentale sont énormes.
Okay.
On n'a même pas de programme d'aide aux employés. Je me suis endettée tellement pour combler le manque, ça se dit même pas. Je veux même pas le dire en ondes parce que mes proches vont capoter. Puis là,
ça,
ben,
on parle pas de l'impact.
De
elle vient de le dire, on parle pas non plus de l'impact que ça a sur les gens, les proches de la personne qui est touchée par la pauvreté. Parce qu'on parle souvent de la personne touchée par la pauvreté, mais il y a tout l'impact autour qui est aussi sur cette personne-là. Bon, des parents qui savent qu'il y a un enfant qui vit dans la pauvreté puis qui l'aide mieux, mais ça a un impact sur ces parents-là parce qu'eux autres aussi, on vont aller jouer dans leur fonds de pension également. Puis il va avoir un impact au niveau de la santé mentale, de l'anxiété. C'est majeur l'impact de la pauvreté. Et c'est majeur, puis on se ferme les yeux vis-à-vis de ça. Je ne sais pas c'est quoi, pourquoi on se ferme les yeux vis-à-vis de ça, je le sais.
Je le
disais d'entrée de jeu, ouais. Oui, peut-être parce que c'est facile à tasser, mais ça nous va nous rattraper.
Mais
ça
là,
va nous et c'est en train de nous rattraper socialement
mais
actuellement.
Mais ce qu'elle vient de nous décrire, Marie-France, c'est que quelqu'un ouvre la porte de l'avion puis te pousse en bas, là. Pas de
ben,
parachute.
Exactement.
Là.
Tu sais, ça me fait passer, c'est drôle, c'est pas vraiment un beau parallèle que je veux faire, mais combien d'années on a été à tasser nos budgets au niveau des infrastructures, au niveau de nos routes,
ben,
ça, et on a des nids de poules partout. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire avec des citoyens, avec des gens, des Québécois et des Québécoises. On est en train de créer cette pauvreté-là, des trous de pauvreté partout.
Mais je veux pas vous décourager, Marie-France, mais j'essaie de voir comment vous allez vous relever de ça?
Ben, j'attends d'avoir 55 ans. C'est ma porte de sortie, là, la retraite. J'aimerais ça aussi me partir
la
à
retraite,
mon compte.
Ouais, ouais.
Mais je serai quand même pauvre si je prends ma retraite à 55 ans parce que ça ne sera pas suffisant.
Pas à conseiller, non, c'est ça? Vous allez
non,
être désavantagé.
Non,
mais bonne chance,
que,
écoutez.
Oui, merci, il faut garder espoir.
Oui, tout à fait. Et vous le disiez à la fin de votre courriel, vous disiez ce qui vous touche le plus, c'est la solidarité, tout de même les voisins, les amis, les parents qui contribuent pour que vous arriviez à payer l'épicerie quand même. Sylvie veut rajouter quelque chose?
Oui, ben en fait, moi, je voulais dire que peut-être aussi une des choses pourquoi on s'attaque pas aussi à la pauvreté, c'est qu'on ne sort jamais les vrais chiffres. Ça fait des années qu'on fait pas des recensements au niveau de la pauvreté. Donc, on prend sur des chiffres basés sur, par exemple, Moisson-Montréal, on parle du bilan fin de Moisson-Montréal, qui est basé sur les 257 organisations qui desservent à Montréal. On a dénombré, par un comité de cartographie dans lequel j'ai fait partie, 730 organismes qui travaillent à contrer l'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on se base sur
à
des
Montréal
chiffres...
À Montréal ou au Québec?
Juste à Montréal. Et on se base sur des chiffres sur 257 organismes à Montréal, tandis qu'il y en a sur 730 qui font du dépannage. Puis là, on calcule pas non plus les familles qui vont aider les frères, les sœurs, les enfants. Donc, on se base sur des chiffres pour...
Ce n'est que la pointe de l'iceberg, finalement, c'est ce que tu nous dis.
Ben, ouais.
Merci, Marie-France. Sylvie, tu restes avec nous. Il y a des gens qui veulent nous donner leur opinion là-dessus. Évidemment, si vous avez déjà eu besoin d'une aide alimentaire d'urgence, si vous êtes un nouveau sur les listes, justement, des banques alimentaires, dites-moi comment vous vivez ça. 514-790-9850. Et partout au Québec, parce que ce genre de besoin, il est vraiment national. Québec, il y en a dans toutes les régions, des besoins criants. 1-866-790-9850. On parle de l'aide alimentaire d'urgence. Je vous disais qu'entre autres, dans la région de Montréal, on sait qu'au regroupement Partage, les chiffres nous apprennent que 70 % des nouvelles demandes d'aide alimentaire, ce sont des gens qui n'ont jamais eu de leur vie besoin d'aller demander de l'épicerie ou des soins. Mmh. C'est assez inquiétant. Il y a 35 % au moins de ces clientèles-là, ce sont des enfants. Donc, plus d'une personne sur trois, c'est un enfant qui mange pas à sa faim au Québec. On va parler à Martin. Bonjour, Martin. Est-ce que vous vivez ça? Vous l'avez déjà vécu?
Ben, je le vis présentement. Je suis travailleur de la construction. Je gagne 32 $ de l'heure. J'ai quand même un bon salaire, mais j'arrive pas à chaque mois parce que je me suis séparé, puis je suis resté pris un peu avec la maison que j'essaie de vendre présentement. Donc, depuis un petit peu moins qu'un an, ben j'ai des enfants à faire vivre aussi. Je reçois l'aide alimentaire à chaque semaine. Je vais chercher ma boîte à chaque semaine au comptoir alimentaire, puis je mange. C'est ce qui me fait vivre en attendant. Ouais. Donc, en attendant que je rentre à la maison, que ma situation se replace.
Vous êtes dans quel coin, Martin?
Je suis dans les Laurentides.
Dans les Laurentides. Puis vous avez deux enfants?
Oui, j'ai deux enfants, puis avec quand même une grosse maison à payer, puis... Ouais. La conjointe n'est plus là, donc je dois payer mes choses toute seule. Puis le pire, c'est qu'elle a vu la même chose de son côté avec les deux enfants aussi. Donc,
difficile. Donc, écoutez, bon courage.
Tant qu'on trouve pas une... Merci.
Merci beaucoup, Martin. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour. Félicitations pour votre programme.
Merci, Pierre.
Moi, c'est assez particulier ce que je vais vous raconter. Je suis quand même assez à l'aise pour côté financier et tout. Sauf qu'il y a un supermarché que je nommerai pas. Ils sont en grosse rénovation, agrandissement depuis 4 mois. Et en temps normal, ils ont un gros container en métal, OK, collé à main de la bâtisse, où ils mettent tout ce qui est passé date de la journée même ou les jours suivants. Mm-hmm. Et c'est encore très bon à 100%. Et tout ce qu'on peut voir dans un supermarché qu'on peut acheter, comme du yogourt, du jambon, des jambons toupies, des viandes froides, nommez-les, le pain, tout, OK? C'est dans, maintenant...
Ça se ramasse là alors que les banques alimentaires sont vides, c'est ça que vous voulez dire? Que oui. Vous en compreniez pas comment se fait qu'il y a des containers mais qui là, sont devenus des poubelles? Oui. Puis, ouais.
Mais là, ils mettent ça dans des bacs verts, des gros bacs verts.
Sylvie Roche, merci.
C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut travailler tous ensemble, parce qu'il y a de la législation au Québec aussi qui fait que les gens qui vont donner des aliments, des fois, peuvent avoir des poursuites si la date est passée.
Mais vous, Pierre, faites-vous ça? Vous allez-vous piger là-dedans?
Ben, je peux aller en chercher comme je veux, à volonté. 100 $, 200 $, je remplis un petit peu ma valise, j'en prends pas beaucoup, mais j'ai des tourtières, des crotons, du plein, tout, plein, c'est plein.
En fait, là, moi, je pense qu'il faut s'asseoir ensemble, les différents intervenants, comprendre les difficultés de tous et chacun, comprendre les réalités, puis arriver à des solutions ensemble pour ça, pour qu'il n'y en ait plus de gaspillage alimentaire comme ça, pour qu'il n'y en ait plus de poubelles qui soient pleines, puis qu'on puisse diriger ça vers les banques alimentaires. Je sais qu'il y a des moissons qui ont des programmes de récupération de nourriture.
Mais il y en a qui considèrent que c'est du trouble aussi à gérer.
Oui, puis il y en a aussi qui ont peur de donner, puis qui ont peur parce que les dates sont passées de se faire poursuivre, des choses comme ça. Il y a plein de choses à démystifier encore de la part de tout le monde. Puis il faut travailler ensemble pour le faire, ça. Il faut s'asseoir. La meilleure façon, moi, quand je rencontre un partenaire, c'est de m'asseoir avec lui, puis de comprendre c'est quoi sa réalité, puis de lui expliquer c'est quoi la réalité que nous faisons dans l'organisme. Et ensuite, on est capable de travailler ensemble, trouver des solutions ensemble.
Parce que ça se peut pas, du monde qui mange trop, alors que l'autre partie des gens mange pas assez.
Tout à fait.
Ça n'a pas de bon sens. Nathalie est avec nous. Bonjour, Nathalie. Ah, Nathalie, non. On me dit qu'elle n'est plus là. Éric Kingsley est avec nous, des services d'urgence à Jeunesse au Soleil. Il est coordonnateur. Bonjour, Éric. Bon, il n'est plus là non plus. Mais, parfait.
Mais Isabelle, ce que je dois dire... Là,
oui, on a Lynn. Bonjour, Lynn.
Bonjour. Oui, bonjour. Je vais chercher une banque alimentaire. Je suis seule avec ma mère. Ma mère, elle a 96 ans, mais on n'arrive pas parce que j'ai une dette là, qu'il faut que je... Je je pourrais pas arriver à manger. Fait que là, je vais chercher de l'argent dans une autre ville parce que ma ville, je suis en Anadière. En tout cas, cette ville ici m'accepterait pas, mais dans une autre ville, m'accepte, dans l'Anadière, pour aller chercher de la bouffe.
Ici, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de Montréal, mais la pauvreté, c'est à la grandeur de la province. La pauvreté, elle est présente partout. Puis ce qui est encore plus difficile d'intervenir au niveau de la pauvreté, c'est quand c'est isolé dans des villages, par exemple, comme à Pierrefonds, Roxboro, où on pense que c'est riche, comme madame qui travaille dans la Nodière, où il y a moins de services parce que c'est moins reconnu qu'il y a de la pauvreté dans ces coins-là. C'est encore plus difficile. Alors, c'est pour ça que je dis, travaillons tous ensemble. Commençons à se faire une cartographie de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, des vrais besoins aussi, des vrais besoins au niveau de la pauvreté, dans la lutte à la pauvreté. Puis là, on va être capable de travailler avec nos gouvernements, puis les gouvernements vont être capables d'investir correctement.
Tout à fait. Oui. C'est un bon point. Bien, bonne chance.
Merci.
Bonne chance, madame.
Michel est avec nous. Bonjour, Michel.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, exactement. Moi, quand j'étais plus petit, avec ma mère était séparée depuis qu'on avait comme 3 ans. Donc, moi puis ma sœur, on était seuls avec ma mère. Puis on a fait appel plus jeune à des banques alimentaires là pour pouvoir manger finalement. Là.
Vous vous souvenez de ça hein, aujourd'hui, Michel?
Eh mon Dieu, ça m'a vraiment marqué. Ma femme vient d'un milieu complètement différent. Puis on a 4 enfants. Puis aujourd'hui, j'essaie de leur inculquer l'importance du gaspillage et tout ça, parce que j'ai vécu ça vraiment assez longtemps plus jeune. Puis c'est ça, ça me permet aujourd'hui vraiment de m'ouvrir les yeux. Puis j'aide souvent des différentes personnes avec ça. Puis on essaie de faire notre possible pour aider. Je comprends vraiment ce que les gens, dans quoi qu'ils pensent là, finalement.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Michel. Merci bien. C'est ça la difficulté, Sylvie, aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent puis qui me parlent tu parlais de gaspillage alimentaire, puis qui ne comprennent pas comment ça fait qu'on gaspille le tiers de ce qu'on achète finit dans les poubelles. Puis vous, qui travaillez dans l'aide humanitaire, tous ces organismes, toutes ces banques alimentaires, d'aide d'urgence, vous avez de la difficulté. C'est un travail quotidien pour aller essayer de trouver des ressources pour ensuite aider les gens.
Oui, tout à fait. Bien, parce que d'abord, il y a beaucoup de barres de préjugés, comme je le disais tout à l'heure, dans est-ce qu'on va aider les bonnes personnes, de quelle façon on va les aider, est-ce qu'on va être capable aussi de conserver les produits qu'on nous donne. Puis il y a aussi toute la gestion aussi. Faut penser que ces groupes-là, non plus nos groupes, à nous, n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent d'aller chercher des dons, d'avoir un camion, d'avoir des ressources, d'avoir ci, d'avoir des réfrigérateurs, de payer l'électricité. Nous autres aussi, ça nous coûte cher. Puis nous autres aussi, on a des difficultés à arriver. Alors, les groupes communautaires s'appauvrissent en aidant davantage de gens. Puis même des gens dans les groupes communautaires, ce sont des gens qui ont une précarité financière importante dans beaucoup de groupes. Alors, malheureusement, on peut pas aider, on peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais on a besoin de la société pour nous donner ce qu'on va être capable de donner aux gens aussi.
Merci beaucoup d'être venue, Sylvie, nous parler de ça. Je trouvais que c'était important qu'on termine la semaine en se remettant ça ce week-end. Il y a peut-être des gens qui vont aller faire leur épicerie, peut-être des gens qui ont envie peut-être de donner à d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire, entre autres, bon, pour Regroupement Partage?
Alors, regroupementpartage.org. Vous pouvez aller directement sur notre site Internet faire des dons aussi. Et nous, on est capable de diriger aussi les entreprises qui veulent faire des dons, des très gros dons à grand déploiement, mais aussi des groupes qui veulent travailler directement dans les quartiers. Alors, appelez-nous puis écrivez-nous via notre site Internet.
Heureusement, il y a beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps aussi.
Oui, tout à fait.
On profite pour remercier tous les gens qui aident leurs prochains.
Merci beaucoup. Plus de 2 500 bénévoles.
À partage, c'est impressionnant, oui. Vraiment. Là. Merci beaucoup, Sylvie.
Merci.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va revenir sur le procès, mais en fait, c'est le jour du jugement d'Alexandre Bissonnette qui pourrait être condamné à une peine assez historique de 150 ans de prison. C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Chacun va avoir une opinion là-dessus. Vous pourrez me donner la vôtre aussi. Le juge François Yott est toujours en train de lire son document de 246 pages. Et la sentence possible entre 25 et 150 ans. À tout de suite, tout le monde.